mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, et l'émission animée par l'équipe altermondialiste de l'association ATTAC et par les journalistes du PIAF.
Et nous recevons ce soir les collègues du Progrès Social, un tout nouveau quotidien de gauche qui vient de se lancer mercredi 9 mars. Commencer les chroniques d'actualité en absence de Jean-Marc, Gaël va nous parler du fait que la Commission européenne de Bruxelles soutient bizarrement la loi travail d'El Khomri.
Eh oui, étonnant. Je voudrais replacer en fait la loi travail dans son contexte européen et montrer qu'elle a été prévisible dès juillet 2015, comme d'autres politiques économiques et sociales de Hollande d'ailleurs, qu'elles soient passées ou futures. Il faut savoir que les politiques économiques des États membres de l'Union européenne sont étroitement surveillées, notamment les mauvais élèves comme la France, qui ont un déficit et une dette excessif. Et en juillet, la Commission a donc fait des recommandations à la France. Et vous allez voir qu'on suit assez bien les consignes. L'idée générale, c'est la suivante. Je cite « La France devrait renforcer sa stratégie budgétaire et l'étayer par des réformes structurelles, globales et ambitieuses. »
Évidemment.
Alors, qu'est-ce que c'est des réformes structurelles, globales et ambitieuses? Ces réformes, ce serait par exemple, je cite « des mesures résolues, donc un truc bien couillu, quoi, pour supprimer les seuils réglementaires prévus par le droit du travail et les réglementations comptables qui limitent la croissance des entreprises françaises. Et aussitôt dit, aussitôt fait, et même avant, dès juin 2015, Valls et Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, ont proposé de suspendre les seuils sociaux, c'est-à-dire l'obligation d'avoir des délégués du personnel, un comité d'entreprise, un comité hygiène, sécurité et conditions de travail, bref, tous les trucs qui gênent, dès qu'une entreprise dépasse les 50 salariés. Et ça a été voté à l'automne 2015 dans la loi de finances 2016. Autre recommandation, je cite, « Des mesures structurelles sont nécessaires pour garantir la soutenabilité du système d'assurance chômage, en particulier les conditions d'éligibilité, la dégressivité des allocations et les taux de remplacement pour les salaires les plus élevés doivent être réexaminés. » Et le vœu a été exaucé. Presque. Début février, à quelques jours des négociations sur la nouvelle convention de l'assurance chômage, le gouvernement a agité l'idée d'une dégressivité des allocations chômage. Alors, on l'a déjà expérimenté entre 1992 et 2001, sans que ça ait démontré une quelconque efficacité sur le retour à l'emploi. Mais ça ne décourage pas le gouvernement. La Commission déplore, comme nous, je cite, « la part croissante de contrats à durée déterminée dans les nouvelles embauches ». Alors ça, par contre, c'est sympa. Mais elle trouve que le relèvement des cotisations sociales sur les contrats de très courte durée n'a pas permis d'infléchir la tendance. Elle recommande donc, je cite, de réformer le droit du travail afin d'inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Alors le MEDEF avait proposé à l'automne un contrat de travail agile. Ça n'a pas été retenu, mais on a fait la loi travail qui vide le CDI de ses droits officiellement pour inciter à embaucher. Donc pour virer un salarié qui a moins de 5 ans d'ancienneté, ça vous coûtera au maximum 6 mois de salaire, si c'est reconnu comme un licenciement abusif, rien du tout sinon. Et à ce prix-là, ça vaut plus le coup de recruter en CDD, puisque les fins de CDD s'accompagnent de primes de précarité de l'ordre de 10% des salaires versés. Autre idée de la Commission, je cite, « La loi portant création des accords de maintien de l'emploi n'a pas produit les résultats escomptés. Ce dispositif devrait être revu afin de donner plus de latitude aux entreprises pour adapter les salaires et le temps de travail à leur situation économique. La Commission recommande donc de faciliter, au niveau des entreprises et des branches, les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail. Et ça tombe bien, la loi travail prévoit des dérogations massives aux droits via des accords d'entreprise. Ainsi, par de simples accords locaux, on pourra baisser les salaires, augmenter le travail, le temps de travail, passer à 12 heures de travail maximum par jour au lieu de 10 aujourd'hui, et passer le taux de majoration des heures sup à 10% au lieu de 25 à 50% aujourd'hui. Et pour aller plus loin que les mal nommés accords de maintien de l'emploi, on pourra faire un plan social dès que le chiffre d'affaires baisse pendant quelques mois. Alors après la loi travail, qu'est-ce qui restera à faire à Hollande jusqu'en 2017? Alors, la réponse est dans les recommandations de la Commission. Premièrement, je cite, ralentir considérablement la croissance des dépenses de sécurité, en particulier les régimes des agents de l'État et des salariés des entreprises publiques continuent de peser sur le déficit global du système de retraite. Salaud de fonctionnaire. Deuxièmement, je cite, continuer à mettre en œuvre la réduction prévue des dotations de l'État aux collectivités locales. Là, ça risque de grincer des dents. Troisièmement, je cite, veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec, veiller à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec les objectifs de promotion de l'emploi et de la compétitivité. Donc, en français clair, ça veut dire que les smicards, faut se serrer la ceinture. Quatrièmement, prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation. Car, comme le savent depuis longtemps les lecteurs du Figaro, je cite, « les taux d'imposition des sociétés sont élevés et pèsent négativement sur l'investissement des entreprises françaises. » Donc, on va encore augmenter la TVA que le smicard paye sur son paquet de nouilles pour pouvoir baisser l'impôt sur les sociétés. Alors avec tout ça, on peut encore faire une dernière prévision. C'est le nom de la gagnante du premier tour de la présidentielle en 2017.
Mais c'est une préconisation de la Commission de Bruxelles, encore une fois ?
Elle n'est pas allée jusque-là, mais peut-être, oui. C'est peut-être leur rêve secret.
Oui, non, on n'a peut-être pas lu tous les textes. Il y en a tellement produits par la Commission chaque année, chaque jour. Alors, on continue avec l'actualité. Et Boris va nous parler d'une activité brûlante, enfin brûlante, toujours bien brûlante, mais de l'autre côté de la planète, Fukushima.
Exactement. Alors du coup, j'ai retrouvé l'article qu'on avait écrit dans le PIAF il y a 5 ans. Donc c'était Magali qui avait écrit cet article, avec un excellent titre d'ailleurs, « Atone devant l'atome », pour dire déjà que la France avait des réticences à sortir du nucléaire, alors que l'Italie ou l'Allemagne ou la Suisse s'étaient engagés dans ce sens-là, de façon un peu plus virulente. Et donc aujourd'hui, c'est les 5 ans d'anniversaire, un malheureux, triste anniversaire de cet accident nucléaire. Et je voudrais juste revenir sur un certain nombre d'événements d'actualité. Donc le Premier ministre, au moment de l'accident, Naoto Kan, était un pro-nucléaire affirmé. Et depuis, il a complètement changé d'avis, dans le sens où il a failli évacuer la ville de Tokyo. Donc c'était vraiment... pour lui, ça a été extrêmement difficile. Hein, Et l'actuel Premier ministre, Shinzo Abe, estime que le Japon ne peut pas se passer du nucléaire. C'est ce qui a été déclaré cette semaine. Donc un certain nombre de centrales ont été relancées alors que tout avait été désactivé. Alors je rappelle des chiffres. Hein, 160 000 personnes déplacées. 2000 morts, des estimations indirectes puisque c'est des suicides... des personnes âgées qui ont dû quitter leur lieu de vie. On ne connaît pas le nombre exactement de morts. Hein. Et des morts directes, on ne les connaîtra pas encore, puisqu'on pense que ça va s'étaler sur plusieurs décennies. Alors on pense aussi qu'il faudra 40 années pour régler le problème de la décontamination au sol et en mer. Et le coût global de la catastrophe est encore inconnu. Alors j'ai vu les derniers chiffres, c'était 100 milliards de dollars. En comptant la décontamination et les dédommagements des déplacés. Et là, on ne compte pas le travail de TEPCO pour décontaminer et démanteler la centrale nucléaire.
TEPCO qui est le géant industriel du nucléaire au Japon.
Toujours. Voilà. Oui. Donc, donc l'ancien Premier ministre estime justement qu'il y a eu... tout au long de cette problématique, des mensonges, des non-dits et des estimations frauduleuses. Alors, pour rester dans l'actualité, Ségolène Royal a décidé aussi cette semaine de prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales, de 40 à 50 ans. Et en même temps, le canton de Genève vient de déposer une plainte contre la France au tribunal de Paris concernant la centrale du Bugey, hein, qui se trouve pas loin de la Suisse, pour mise en danger d'autrui et pollution des eaux. C'est Corinne Lepage d'ailleurs qui s'occupe de défendre la Suisse, enfin le canton de Genève. Alors voilà, c'est pour ça que je reviens un petit peu au titre qu'on avait sorti il y a 5 ans, et que la France n'a pas de pétrole, mais a des idées, mais a du mal à s'en décroter devant un lobby nucléaire qui est très fort au Japon et en France.
Et si on reste sur nos frontières, cette semaine aussi, deux centrales belges qui sont vraiment en porte de la frontière, comme celle de Tihange, une petite heure de la frontière française, qui vient d'être remise en route, malheureusement l'an dernier, après des centaines de micro-fissures découvertes. Mais non, elle poursuit son activité.
Voilà. Et il y a aussi eu en Belgique aussi, également, un risque. Enfin, on a retrouvé des choses pour les attentats contre une...
Mais on est protégé par la frontière, de toute façon.
Oui, n'oublions pas, surtout avec les nouvelles mesures de Valls sur la sécurité, rien ne peut passer au travers de cette frontière, bien entendu. Alors, on va parler encore dans 2-3 minutes d'un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle « Merci patron ». C'est un peu... Pour ceux qui l'ont vu, on peut se regarder avec des grands yeux émerveillés en disant « Ah, ça, c'est un film qui donne de l'énergie et de la joie ». Pour ceux qui l'ont pas vu, il faut y aller quand même, c'est pas rien, c'est du film. Et pour se mettre dans l'ambiance du film, on va écouter la chanson qui existait bien avant le film, c'était Les Charlots, il y a une bonne trentaine, quarantaine d'années, et qui s'appelle, comme le film, « Merci, patron ».
On arrive à l'usine, la gaieté nous illumine.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Et vous êtes avec les membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous allons recevoir d'un instant à l'autre un correspondant pour le progrès social au téléphone, mais on va vous parler en attendant de ce qu'est le progrès social. Donc c'est un quotidien qui vient juste de naître il y a quelques jours, très exactement mercredi. On est donc au numéro 3, mais il y avait déjà des numéros 0 en ligne depuis quelques temps. Et pour lancer ce projet, vous pouviez, si vous le souhaitiez, passer par le projet financé, autofinancé, grâce à Ulule, le site de financement coopératif, qui permettait, pour une somme qui était relativement modeste, de lancer ce journal. Alors ce journal, évidemment, a un objectif de vente quotidienne, donc un apport financier correspondant à un journal quotidien, mais c'est un projet assez impressionnant. Donc on l'a en main, on a les premiers numéros en main, et si on veut lire un peu la une, par exemple, de ce vendredi 11 mars, il y a un grand article sur la privation de droit, privation de liberté, qui essaye de partir sur cette idée entre la sécurité au détriment des droits ou les problèmes de en prison, en lien évidemment avec la loi travail. C'est un journal riche en couleurs, bien agréable à lire, et c'est bien agréable qu'il existe. Et nous avons donc au téléphone justement Laurent Lacoste du journal Le Progrès Social qui va nous commenter davantage ce projet. Salut Laurent.
Salut.
Alors merci de ton coup de fil. Donc comme je le disais à l'antenne, on vient de feuilleter un peu la une du jour, vendredi 11 mars, c'est votre numéro 3, le numéro était donc mercredi, et on vient de décrire que c'est donc un journal quotidien avec une véritable ambition d'information bien à gauche. Alors justement, donc voilà, c'est un journal, j'affirme moi qu'il est à gauche, mais est-ce que c'est bien ce que vous dites vous? En fait, qui êtes-vous quoi, en quelque sorte?
Alors, est-ce que c'est bien à gauche? Oui, déjà. Alors c'est animé par... des gens qui viennent tous du mouvement social, je dirais, dans son ensemble. Hein, y a des gens qui viennent du milieu syndical, associatif, des collectifs. Il y a aussi des gens de la LDH, par exemple. Enfin, des gens qui sont, en fait, c'est le sous-titre du journal, hein, d'ailleurs, ceux qui construisent, qui essaient de construire le progrès social au quotidien. mais dans l'action, vraiment, les gens qui sont dans l'action, qui sont sur le terrain, qui ont une expérience de terrain aussi très développée au niveau du syndicalisme ou de l'action citoyenne quotidienne de proximité, quoi. Voilà. Et il y a un ou deux journées, on a tous été amenés dans nos diverses expériences à écrire beaucoup. On a déjà participé à d'autres publications, etc. Il y a un ou deux journalistes professionnels qui sont venus se glisser là-dedans, mais qui sont eux aussi à gauche. Je dirais, en fait, ce serait aussi, comme l'indique le nom du journal, progressiste, quoi. Voilà.
Donc vous êtes une quarantaine de personnes, c'est ça? Il y a des bénévoles, il y a des salariés.
On n'est pas entre 30 et 40. On n'est pas tous permanents, évidemment. on peut pas se le permettre. Il y a une équipe de permanents, et puis il y a tout un tas de contributeurs justement issus de tout ce mouvement-là, qui mais aussi dans plein de domaines, aussi bien dans l'économie que dans le syndicalisme pur, que l'éducation populaire. Ça, c'est un truc, c'est quand même un maître mot, c'est un truc qui nous tient à cœur, donc qui contribue ponctuellement ou régulièrement chaque semaine, ou voilà, qui nous propose des sujets, qu'on prend ou pas. Il y a une équipe permanente et pas mal de gens qui gravitent autour. Voilà, en gros, c'est ça, le c'est comme ça qu'on est constitué, et on est très très ouvert à partir du moment où où les contributions sont dans la ligne éditoriale. On n'est pas du tout sectaire, ou tu vois ce que je veux dire, si le sujet est intéressant et qu'on estime qu'il est dans notre ligne éditoriale, on le passe, quoi. Voilà. Il y a une grande ouverture quand même.
Alors justement, l'esprit, ce qu'on appelle la ligne éditoriale d'un journal, quoi, hein, qu'est-ce qui peut être mis, qu'est-ce qui ne peut pas être mis. Donc là, je vois que tout ce que tu viens de dire, donc le lieu d'où vous venez, c'est clair, c'est des militants associatifs, des gens de terrain, comme tu dis. Mais je vois aussi que vous êtes très attaché au pluralisme de la presse. Ça veut dire que vous avez des petites envies critiques par rapport à une autre sorte de presse?
Critique, oui, vis-à-vis du, enfin, on est aujourd'hui, nous, en France et ailleurs aussi, noyés quand même sous un déluge d'informations, que ce soit dans la presse écrite ou audiovisuelle, qui nous semble être quand même majoritairement dans ce qu'on pourrait appeler la pensée dominante. Voilà, qui relaie, enfin, par exemple, il suffit de regarder les reportages qui sont faits dans la plupart des journaux, quand par exemple il y a des luttes sociales, des ou des initiatives, mais restons sur les luttes sociales. Les gens qui sont par exemple en lutte sont jamais mis à leur avantage, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans énormément dans toute la presse dite officielle. Le mouvement social est jamais très bien traité, et la réalité est souvent distordue. Donc nous, en toute modestie, on a envie aussi de donner une autre vision des choses, quoi, de montrer que je sais pas, par exemple, si pendant une grève des mecs, il y a eu un petit mouvement avec des mecs, un mouvement de colère, etc., de leur donner la parole à eux aussi pour qu'on arrête de les stigmatiser, surtout en ce moment, hein. C'est quand même quelque chose qu'on entend quasiment tout le temps, quoi. Donc c'est un peu pour essayer de faire une espèce de en toute modestie, encore une fois, hein, de contrepoids par rapport à tout ça, et voilà.
Donc il y a aussi, donc il y a le fond, et puis il y a peut-être un style aussi pour le progrès social. Je sais pas, je vois les articles sont parfois peut-être un petit peu plus courts que certains autres journaux. C'est une volonté réelle de style éditorial lisible.
Plus court, c'est-à-dire par exemple, on nous a dit justement, que notre journal était quand même, bon, c'est un 4 pages, hein, on est d'accord, qu'il était quand même assez dense. Alors il y a un peu toutes les tailles. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent deux gros articles qui dominent un peu, qui dominent un peu le reste. Et puis ensuite des articles un peu moins importants. Non, l'idée c'est d'essayer d'aller dans le fond des choses, de donner une autre vision de la société et surtout des gens qui œuvrent chaque jour pour qu'elle soit meilleure, pour qu'il y ait un peu plus de justice. Il y a énormément de gens qui œuvrent à tout ça tous les jours. On n'entend pas assez parler d'eux, c'est clair.
Et Pierre parlait de lisibilité. Effectivement, en lisant certains articles, on a l'impression qu'il y a un effort pour ne pas tomber dans un style lourdement militant. Au contraire, c'est un style assez, je dirais, fluide, accessible. Est-ce qu'il y a un travail de relecture, de re-rédaction pour assurer cette lisibilité et donner un côté grand public aux articles?
Oui, voilà, c'est ça. On essaie de... Alors, on vient tous du milieu militant, comme on l'a dit et tout, mais on veut essayer justement aussi, non pas d'en sortir, mais de donner à ce milieu militant une visibilité, quoi, un peu plus grand public, pour le faire mieux connaître. Donc, effectivement, quand on écrit quelque chose, on a la fibre militante qui parle en nous, mais on pense aussi au lecteur, on pense à cet objectif-là. Et on essaie de prendre un peu de recul par rapport à cette fibre militante et effectivement de donner envie. Il y a une rubrique par exemple en page 4 où on présente à chaque fois des associations, des collectifs ou des qui œuvrent au mouvement social aussi ou à des initiatives. Et elle s'appelle s'indigner. C'est bien, mais agir, c'est encore mieux, quoi. Donc, on essaye aussi de donner une visibilité au grand public du mouvement militant dans son ensemble et dans beaucoup de domaines. D'où ce recul qu'on essaye de prendre, quoi. Voilà. Après, on verra, hein, mais c'est la démarche, effectivement.
Alors ben là, on va passer aux questions un peu plus lourdes. Vous avez fait un projet qui est superbe. D'ailleurs, on peut voir ce 4 pages, le numéro 0 pour En Vrai, qui est très beau. Et puis les numéros actuels sont pleins de couleurs, etc. C'est un vrai journal, hein. Je dis ça pour tous les auditeurs. Ouais. On peut être informé quotidiennement par Le Progrès Social de manière alternative. Mais il y a des concurrents. Vous avez fait un peu une étude de marché. Vous savez où vous allez?
Une étude de marché en bonne et due forme, non, évidemment, quand on a pensé le projet, il y a déjà maintenant plus de 18 mois, on a regardé un peu ce qui se faisait, etc. Il existe une presse alternative, hein, mais à notre connaissance, quotidienne, sur papier, non. Donc on s'est dit qu'il y avait une place à prendre, là. Pourquoi le papier? On nous pose aussi souvent cette question. Je sais pas. Parce que le papier, ça s'est imposé. On a dit si on fait un truc, c'est forcément sur papier, sachant que on est un peu dans l'ère du tout numérique. Nous, on pense que le papier, ça se transmet bien d'une main à l'autre, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Le journal papier, pour nous, c'est important. C'est une tradition, c'est une qui est importante, qui facilite l'échange, selon nous. Voilà. Et on a essayé, effectivement, de faire quelque chose qui ressemble à un vrai journal. Je pense que c'est pas trop mal.
C'est très très beau, hein, on est tous d'avis autour de la table. Hein. Et puis c'est vrai que ça complète bien des journaux, mais il y a des journaux quotidiens comme l'UMA qui sont là aussi, bon, un petit peu certainement partisans sur certains aspects, mais qui sont un autre type de journaux. Il y a pas mal de journaux à gauche. Bref, il y a de la concurrence, quoi. Et donc on voit le mode de financement, et il faut bien le dire aux gens, c'est que le journal vivra s'il y a des abonnés. C'est ça votre principe de vente?
Oui. On est financé uniquement par les abonnements, pas de publicité. Pas de publicité, parce que ça aussi c'est un choix. Il y a, moi, j'ai travaillé dans la presse au tout début de ma vie professionnelle. Alors, ça avait pas grand chose à voir. C'était dans la presse musicale, etc. Mais c'était un magazine dans lequel il y avait de la publicité et tout. Et je m'étais rendu compte en tant que rédacteur que il y avait une pression de la part des annonceurs publicitaires, une pression qui ne se déclare pas forcément ouvertement, mais qui existe. Voilà. Moi, ça m'est arrivé à l'époque quand j'avais un disque ou un concert à chroniquer. Des fois, j'avais pas trop aimé, mais mon rédacteur en chef venait me voir en me disant, bah ouais, mais la maison de disque a passé une page de pub ce mois-ci. Donc, en gros, c'était voilà, il y a quand même une pression de la publicité. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de s'en passer, en faisant le pari que le journal petit à petit se ferait connaître et aurait un nombre d'abonnés suffisant pour vivre.
Et concernant cette viabilité économique sur le long terme, actuellement, on voit pas mal de journaux alternatifs qui étaient très intéressants, mais qui ont dû mettre la clé sous la porte. Actuellement, Rue 89 a des difficultés. Terra Echo est en train de fermer.
Ouais, j'appelle ça. Ouais,
qu'est-ce qui vous... sur quoi vous comptez pour vaincre cette fatalité apparente de la presse alternative?
On compte sur notre comment dire. On compte sur le fait que ça va prendre, qu'on propose autre chose, que on a une forme de vrai journal qui se distribue quotidiennement, ce qui déjà rend le projet un petit peu hors norme. On compte là-dessus. Et puis oui, c'est un pari hein, de toute façon qu'on fait. Alors tout le monde dit que par exemple la presse quotidienne est en train de se casser la figure. Je dis bien quotidienne, hein. Mais c'est pas certain. Faut savoir que par exemple, moi j'ai été informé il y a pas longtemps en discutant avec quelqu'un qui est dans le métier. Je sais pas, hein, c'est peut-être s'avancer un peu trop, mais par exemple il y a des boîtes américaines en ce moment qui en Europe et notamment en France, alors j'ai pas les noms là en tête, rachètent des boîtes qui fabriquent de l'encre pour la presse parce qu'ils prévoient, certaines presses quotidiennes seraient en train de repartir, que les gens, voilà. Je sais pas si ça va se traduire dans les faits.
On peut que le souhaiter, bien entendu. Est-ce que tu as, donc tu es directeur de publication, tu n'es peut-être pas le directeur commercial, mais est-ce que tu as une idée là exacte du coût de l'abonnement pour dire à ceux qui sont en train de te dire tiens, je vais m'abonner demain?
Le coût de l'abonnement pour l'année, il est de... Alors, on fait des tarifs réduits et tout. Hein. On fait des tarifs réduits... je vais déjà dire le prix. Il est de 240 euros pour l'année, sachant qu'il y a la possibilité aussi de payer mensuellement. On fait des tarifs, évidemment, réduits pour chômeurs, étudiants, détenus, etc. Voilà, c'est 240 euros à l'année. Il y a des tarifs réduits 200. En tarifs réduits, c'est moitié. Il y a encore la possibilité de s'abonner pour 200 euros, etc. Via un financement. Alors, on a fait, on a fait un financement participatif aussi, qui a plutôt bien marché.
Et on en a parlé avec le site Ulule, qui a permis d'avoir une somme de départ, qui a permis de lancer le journal.
Ouais. Puis on avait des préabonnements aussi au départ. Hein. Dans les mois précédents, on avait cumulé du préabonnement parce qu'on s'est quand même aussi pas mal battu pour faire connaître le truc avant même sa sortie. Donc il y a possibilité de s'abonner via le site internet. Il y a possibilité de payer mensuellement parce que on sait bien que tout le monde peut pas forcément débourser là 240 ou 200 euros. Donc il y a possibilité de le faire mensuellement. On a essayé de tout mettre en place pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent déjà ne serait-ce que s'abonner sur une période donnée pour se faire une idée.
Et alors, vous avez un très joli symbole visuel, c'est une fleur d'églantine rouge,
ouais.
qui est très belle et qui sert de symbole au journal et qui permet de l'identifier en une seconde. Alors, pour terminer, tu peux nous raconter vite pourquoi l'églantine ?
Alors, pourquoi l'églantine ? Il faut savoir que l'églantine, c'est... alors ça vient des premiers mouvements de contestation ouvrière fin du 19e siècle, hein, à l'époque où... les gens se battaient pour la revendication essentielle à l'époque chez les ouvriers, c'était la semaine de 40 heures. La semaine de 40 heures que, soit dit en passant, on veut essayer d'allonger aujourd'hui. Hein, c'est quand même incroyable. Donc, c'était des luttes très, très violentes. Et l'églantine, c'est l'ancêtre du muet du 1er mai. C'est ce qu'on explique. Et ces luttes ont eu lieu un peu partout, et notamment en France, dans le Nord. Elle est devenue le symbole de la lutte quand il y a une jeune ouvrière qui, pendant une manifestation, a été tuée par la police. Elle portait des branches d'églantine sur sa robe. Et les ouvriers, dans les années... ça, c'était en
1891.
Ouais. Dans le Nord de la France. Et... comme symbole, dans les années qui ont suivi, les ouvriers, quand ils faisaient des manifs ou des grèves ou des mouvements, reprenaient ce symbole de l'églantine et qui a perduré assez longtemps comme symbole du 1er mai et donc des luttes ouvrières et qui a été transformé en muguet sous Pétain. Enfin, sous l'occupation, c'est Pétain qui a pris cette décision. Voilà, et nous, on a préféré reprendre ce tout premier symbole de l'églantine, qui semblait bien nous convenir. Voilà, parce que en faisant ce journal aussi, on essaye de renouer avec cette tradition ouvrière de lutte, d'émancipation, on va dire, et d'éducation populaire. Voilà, encore une fois, en toute modestie, mais on tient à... On veut tenir ce flambeau, quoi, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, où on vit quand même une période sociale quand même très sombre. Mmh. Voilà.
Eh bien, merci pour ton intervention et surtout merci pour ce journal. On vous souhaite, et puis on nous souhaite à tous, lecteurs, contributeurs, une belle vie au progrès social.
Ouais, ben merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler. Mmh. Voilà.
Et nous enchaînons sur une petite musique. Alors, ça parle de journalisme aussi, mais de journalisme plutôt en Afrique. C'est Journaliste en danger d'Alpha Blondie.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que juste... Au clair de la lune, mon ami Zongo.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous êtes sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée aujourd'hui donc par les membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous reprenons l'antenne pour écouter Marie qui va nous parler de démocratie par tirage au sort.
Oui. Quand on parle de tirage au sort en politique, on pense aussitôt à l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, à Athènes, le tirage au sort était une procédure centrale, aux côtés de l'Assemblée, où le peuple était présent encore, et des élections. Pour les Grecs de l'époque, la sélection aléatoire des responsables politiques et des magistrats, avec la rotation des mandats qui l'accompagnaient, concrétisait les idéaux démocratiques. Tour à tour, gouvernant et gouverné, tous les citoyens participaient directement à la vie politique et avaient en partage la liberté. Il faut donc bien distinguer entre, d'un côté, la démocratie, où le pouvoir est exercé par le peuple sans intermédiaire, et de l'autre, l'aristocratie, qui est le pouvoir des meilleurs. Alors que le tirage au sort est une méthode de sélection intrinsèquement démocratique, l'élection, elle, induit un régime aristocratique. Sont élus ceux que l'on considère comme les plus aptes à diriger. Force est de constater que le terme « démocratie » est monopolisé depuis maintenant 200 ans dans un sens inexact. Nous ne sommes pas en démocratie. Car l'élection, lorsqu'elle conduit en plus à la formation d'une classe politique professionnelle autonome, concentre le pouvoir entre les mains d'un petit nombre, c'est alors une oligarchie. Et si la course au pouvoir qu'implique l'élection se double d'enjeux financiers, les plus riches se faisant élire ou faisant élire des représentants favorables à leurs intérêts, alors on peut dire que le régime en place s'apparente à une ploutocratie. Comment donc expliquer cet abus lexical ? Nous ne sommes pas en démocratie. Jusqu'aux décennies précédant les révolutions américaines et françaises, le caractère plus démocratique du tirage au sort et plus aristocratique de l'élection était pourtant une chose acquise. Mais en mettant à bas l'ancien régime, les révolutionnaires ne visaient en fait pas l'autogouvernement du peuple, c'est-à-dire la véritable démocratie, mais le gouvernement représentatif, c'est-à-dire une aristocratie élective. Les arguments élitistes avaient en effet fini par s'imposer. Le peuple n'était pas capable de décider lui-même du bien commun. Il fallait mettre au pouvoir l'élite du pays. Pas celle qui se distingue par la naissance, les nobles, mais celle qui se distingue par la richesse, la culture et la moralité, supposée. Et puis, on avançait contre le tirage au sort l'idée que la liberté qui réside dans l'exercice collectif et direct de la souveraineté n'était possible que dans de petites communautés aux mœurs homogènes, comme c'était le cas à Athènes. À l'époque, en effet, les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus de la citoyenneté et assuraient un certain nombre de tâches domestiques et pratiques, ce qui laissait aux hommes libres le loisir de faire de la politique en permanence. Or, dans les États modernes, c'est la division du travail qui s'impose. La politique devient donc un métier à part entière. La taille des républiques modernes semble de fait disqualifier l'usage du tirage au sort, tant qu'à confier le pouvoir à quelques-uns, puisque tous les citoyens ne peuvent gouverner tour à tour, n'est-il pas encore plus logique de le confier aux plus capables ? C'est qu'un outil conceptuel manquait aux penseurs du XVIIIe siècle, la notion d'échantillon représentatif. Cette idée nous est désormais familière, avec les statistiques, les sondages d'opinion, les panels, etc. Cette idée repose sur le principe qu'en présence d'un grand nombre d'individus, la sélection aléatoire permet la constitution d'un petit groupe représentatif de l'ensemble. Et c'est dans cette mesure qu'il semble tout à fait rationnel de considérer le tirage au sort comme l'un des moyens au service d'une représentation descriptive de la société. Si, au sein d'un État de grande échelle, il n'est pas envisageable que tous soient alternativement chargés d'un mandat, la sélection aléatoire garantit du moins à tous les citoyens une représentation de leurs intérêts.
Voilà, une autre forme de démocratie, surtout dans des périodes où nous sommes attaqués de toutes parts avec des lois sur la sécurité ou des lois sur le droit du travail. Alors justement, sur le droit du travail, on va écouter quelqu'un qui parle bien quand il faut s'opposer à ça. C'est Gérard Filoche qui a été interviewé dans l'émission « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet. C'est une émission qui ne passe plus sur France Inter, mais qui passe maintenant sur le web, sur là-bas.org. Et c'était l'émission de 27 février dernier.
Je suis d'abord très choqué. Par l'attaque contre le code du travail, parce que là c'est pour des millions de salariés, c'est une attaque sans précédent historique en fait, puisque il s'agit d'inverser un siècle de droit du travail. Toute l'histoire du droit du travail pendant un siècle, c'est sa construction pour qu'il défende les humains contre les exigences des entreprises, contre les exigences des patrons et des actionnaires. On défend les droits de l'homme à l'intérieur du monde de l'entreprise contre la compétitivité, contre la rentabilité, contre eux, etc. Et ça se construit, ce code du travail, pendant 100 ans comme ça. Et jusqu'à ce que François Hollande décide de dire on va adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. Mais il décide d'imposer la casse du code du travail, c'est-à-dire en gros hein, quand même la journée de 12 heures, la possibilité de travailler 60 heures, la fin du repos quotidien, le travail pendant 40 heures pour les enfants à partir de 14 ans, la possibilité par forfait jour de déroger à tous ces horaires. Ils ont même inventé maintenant que le jour de la semaine, du début de la semaine, était décrété par le patron. C'est-à-dire ça n'est plus le lundi comme tout un chacun peut croire. Ça peut être le mardi ou le mercredi. Et pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le dimanche n'est plus le dimanche. Et qu'on n'a plus besoin de le majorer. C'est ce que le BHV vient de proposer aux organisations syndicales pour ne pas payer de majoration le dimanche. Donc ils ont décrété mais 50 critères qui maintenant modifient toute la vie intime des salariés. Le travail pourrait être payé à la tâche, ou du moins ça n'est pas exclu. La mensualisation, c'est fini. C'est étranger au Parti Socialiste, ça. Parce que jamais le Parti Socialiste n'a même discuté, ni pensé ça. La dernière fois que le Parti Socialiste a parlé du droit du travail, c'était pour le reconstruire. On a des textes entiers là-dessus. Les communiqués du Parti Socialiste, il y a même pas 5 ans, sur le centenaire du Code du Travail, le célébraient. C'était les communiqués qui disaient « c'est le précieux pour les travailleurs, nous le défendons ». Donc c'est pas venu de la culture du Parti Socialiste du tout. C'est venu d'une culture étrangère de technocrates et de patrons qui, à l'Élysée, ont fait le siège d'Hollande, qui sont ou pas entrés dans sa tête, ça je m'en fous, mais dont le résultat est une contre-révolution juridique, théorique, fondamentale et pratique dans toutes ses conséquences pour la vie de millions de gens.
Alors la conséquence pour les millions de gens est au nom de quoi ? Alors on enchaîne cette intervention de Gérard Filoche sur une tribune publiée dans Le Monde mercredi en réponse à beaucoup d'économistes qui sont là pour dire « mais il y a une raison fondamentale à faire toute cette réforme du droit du travail, c'est pour vous les travailleurs les plus en difficulté, c'est pour vous qui êtes en CDD alors vous pourriez avoir un CDI ». On nous explique ça depuis 3-4 jours dans la presse alors que finalement cet argument tient-il ? Alors justement cette tribune signée par des économistes d'attaque de la Fondation Copernic et des économistes atterrés où on peut citer des Thomas Coutreau, Jean-Marie Haribé, Michel Husson, Pierre Calfa ou autres personnages qui répondent avec des arguments très simples sur l'argument de la condition de licenciement. On nous dit que cette condition de licenciement va permettre davantage d'embauches. Mais d'ailleurs, si on regarde l'ensemble des économistes, même le gouvernement, ils promettent pas que exactement que ça va être création massive d'emplois. Ils disent oui, sur le long terme, ça va faire des emplois. Ils disent que c'est le problème, c'est que les entreprises sont précaires aujourd'hui. Elles ne peuvent pas donc embaucher en CDI parce qu'elles ont peur de cette embauche du CDI. Donc, en essayant de détruire le cadre du CDI, en tout cas de le rendre plus fade, l'aménager, merci, on imagine qu'il y aura de l'embauche. Mais regardons les chiffres. Aujourd'hui, les CDD représentent 90% des embauches. Donc, qu'est-ce qu'on va imaginer ? Est-ce qu'ils ont bien lu les textes ? Toutes les études de statistiques, par exemple de l'Institut d'Arès, c'est-à-dire le ministère du Travail, 90% des salariés, ceux, ont eux, à l'inverse, en CDI. Donc finalement, il n'y a que 10% des gens en CDD. D'accord, ça représente l'ensemble des embauches, mais l'essentiel de la population est en CDI. Et pourquoi il y a un tel afflux de CDD ? C'est parce qu'il y a des métiers particuliers, des secteurs d'exploitation où le CDD est en fait l'usage. Le nombre de ces CDD est d'ailleurs limité à des secteurs précis. Alors évidemment, c'est pas heureux pour ces 10%-là, mais imaginez de manière raisonnable que baisser ceux qui aujourd'hui profitent à 90% pour profiter à 10%, ça paraît pas très raisonnable là-dedans. Au même titre que les prétendues rigidités du travail vont passer par plus faible encadrement juridique, avec par exemple un pouvoir du juge des prud'hommes typiquement qui aura moins de pouvoir en cas de licenciement abusif. Mais justement aujourd'hui, une des deux raisons qui permettent à une entreprise de ne pas penser licencier, c'est justement d'avoir un juge qui va pourquoi pas déclarer abusif et faire payer une grosse somme à l'entreprise. En plafonnant, deuxième mesure, les possibilités de remboursement ou de défraiement, je ne sais pas comment ils peuvent employer ce terme, en tout cas de rendre à l'employé une part de son activité par une peine juridique pour l'entreprise qui va permettre à l'ouvrier ou l'employé de partir avec un peu d'argent en route. Tout ça est maintenant plafonné. Et voilà le titre de cette plateforme. Si un employeur sait à l'avance ce que va lui coûter un licenciement abusif, rien ne l'empêchera d'y avoir recours. D'autant plus qu'il pourra prévoir à l'avance, bah, cette année je vais pouvoir virer 3 personnes, ça va me coûter tant, je le budgète, il n'y a plus qu'à le prévoir. Le travail deviendra plus que jamais une variable d'ajustement pour les entreprises. Ce licenciement économique, on peut même savoir qu'aujourd'hui en entreprise, ça se calcule en fonction d'un gain actionnarial. Je supprime des emplois, il y a des dividendes qui rentrent en plus pour mes employeurs. Jusqu'ici, c'est difficile de prévoir le licenciement parce que ça peut coûter plus cher que prévu. Aujourd'hui, on peut faire un ratio, voilà, ça me coûte tant et je gagne tant en licenciement. Alors, c'est un des procédés de ce licenciement, c'est une des promesses qui est faite, et une promesse au nom, donc, d'une certaine forme d'arrivée d'emploi, une certaine flexibilité de l'emploi qui permettrait de créer des emplois pour les gens. Mais il faudrait voir si c'est vrai, cette rumeur-là. Alors, ben, regardons des chiffres. Par exemple, regardons un organe international bien connu, l'OCDE, qu'on peut pas taxer d'être le plus à gauche possible, enfin, le moins à gauche imaginable. Et l'OCDE, par contre, est un organe avec des mathématiciens, des statisticiens, ils font des analyses qu'on peut être crédibles. Puis, si on veut pas y croire, en tout cas, lisons-les de temps en temps, ça fait pas mal. Et faisons-les lire aux gens qui aujourd'hui mettent en place cette antenne. Alors, cette antenne, c'est quoi? C'est plus de flexibilité crée de l'emploi. Alors, regardons ce que montrent les analyses. Alors, c'est une analyse qui est parue pour l'OCDE en 2013 et qui a été faite sur une bonne vingtaine d'années à travers plusieurs pays. Donc, il y a des pays où il y a un grand niveau de protection sociale, comme peut être donc les pays traditionnels d'Europe, Allemagne, Luxembourg, Belgique. Et il y a même le Mexique, l'Italie, la Turquie. Et puis des pays, comme on dit, ultralibéraux, plus anglo-saxons, comme la Nouvelle-Zélande, qui a la plus belle non-protection sociale, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, bien sûr. Et regardons, chiffre à l'appui, sur 20 ans, s'il y a une corrélation, comme on dit, c'est-à-dire si quand un pays a peu de protection sociale, il y a plus d'emplois. Et alors là, ils sont amusés à faire des courbes. Et la courbe qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Vous savez, quand il n'y a aucun moyen de dire statistiquement blanc ou noir à l'issue des statistiques. On peut pas savoir même s'il y a une tendance globale à ce nuage de points. C'est-à-dire que la personne qui aujourd'hui affirme favoriser le licenciement permet plus d'emplois ne peut pas dire cette phrase. Il peut pas plus dire la phrase inverse qui est donc mettre un système rigide protecteur pourrait lui aussi produire plus d'emplois. On ne peut dire ni l'un ni l'autre. Et pourtant, regardez la presse depuis une semaine, on entend qu'un seul son de cloche comme si c'était une vérité scientifique absolue. Ce n'en est absolument pas une. Imaginez que demain, les journaux seront, la vie sera florissante de l'emploi en France grâce à ça. Ce n'est pas du tout le cas. Toutes ces notions d'ajustement en entreprise pour licenciement seront là. Alors, les gens qui sont dans la rue depuis le 9 mars, et vous étiez peut-être avec nous, c'est une épreuve de force qui se dessine aujourd'hui pour protéger, bien entendu, des droits, mais c'est aussi pour ne pas tomber dans l'absurde de réformes que même Sarko n'a pas osé faire. Voilà. Bon, ben, on passe maintenant à l'agenda. Et Gaël va nous parler de l'agenda de ce mois de mars, oui, et en particulier de demain,
voilà,
déjà.
Ça commence demain, donc samedi 12 mars, défendons nos libertés. Alors que le Sénat examine le projet de réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, plus de 150 organisations appellent à une journée nationale de mobilisation partout en France. Pour les Parisiens, ce sera à 14h, place Edmond Rostand, dans le 6e.
Et dimanche 13 mars à 17h au Centre international de culture populaire, boulevard rue Voltaire dans le 11e, projection du film Radio La Colie Fata, qui parle de la première radio au monde animée par les patients d'un hôpital psychiatrique, avec la présence de l'initiateur du projet.
Et donc c'est une soirée de soutien pour notre radio Fréquence Paris Pluriel. Venez nombreux.
Tout à fait. À suivre, une projection débat Je lutte, donc je suis, organisée par Ciné Attaque Paris 14e. Et images mouvementées en partenariat avec le cercle Podemos Paris. Donc c'est un film de Yanis Youloutas. Donc c'est le lundi 14 mars à 20h au cinéma Les Sept Parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse dans le 14e.
Et le lundi 14 mars à 19h, donc vous avez le choix entre les deux, à l'espace Vendôme, 17 rue Léopold de Bellon dans le 2e arrondissement, vous avez une conférence débat avec madame Yayoi Hitomi, 5 ans après Fukushima, comment vivent les habitants. Et donc madame Yayoi Hitomi est une habitante de Fukushima qui fait partie du collectif des plaignants du procès contre TEPCO dont on a parlé tout à l'heure et qui sera rejointe par monsieur Bernard Laponche, physicien nucléaire, expert dans le domaine de l'énergie. Vous aurez plus d'informations sur http sortir du nucléaire 75.org et Yosomono Net France qui est l'autre organisation impliqués dans l'organisation de cette soirée. Voilà, donc je rappelle, c'est à l'espace Vendôme, dans le 2e arrondissement, lundi 14 mars.
Lundi soir, une fois n'est pas coutume, n'oubliez pas de regarder votre télévision, si vous en avez une. À 23h25 sur France 3, il y a un documentaire qui s'appelle « Nous, ouvriers ». Nos mains ont reconstruit la France sur les années 45 jusqu'aux années 60. C'est un superbe reportage qui était diffusé la semaine dernière aux Maisons de la Métallo. Et justement, la Maison de Métallo, mardi 15 à 19h30, vous pourrez voir un autre reportage, un toit sur la tête, où des employés perquisitionnent des lieux publics inoccupés, hors des voies officielles et sans consentement de l'État. Ça s'appelle « Un toit sur la tête ».
Mercredi 16, Attac organise une réunion avec des témoignages et des débats sur la Syrie, la résistance de la société civile. C'est à 19h, salle Gendarme, dans le 2e arrondissement à Paris.
Et vendredi 18 mars à 19h, un ciné-débat « Vérité et mensonges » sur la SNCF. C'est au centre d'animation Place des Fêtes, Paris 19e.
Une conférence débat « Tous rentiers pour une autre répartition des richesses » autour de l'ouvrage de Philippe Askenazi. Donc ce sera le jeudi 24 mars à 20h à l'Amphi B, Place du Panthéon, dans le Paris 5e. Et vous aurez plus d'infos sur le site des économistes atterrés.
Une rencontre autour de la maladie d'Alzheimer, maladie politique. Ça a lieu le samedi 19 mars à 17h à la mairie de Versailles, salle Montgolfier. Et c'est organisé par les Amis du Monde Diplomatique. Donc plus d'informations sur le site des Amis du Monde Diplomatique.
Dimanche 20 mars, place de la République, ça sera l'espace de gratuité Graftiferia. Devant un monde mercantile et belliciste, seule la gratuité et la non-violence sont révolutionnaires. Venez prendre la parole et venez agir pour les peuples et par les peuples. Il y aura entre autres un conférence-débat qui aura lieu, non, c'est que je me suis trompé, de classe. En tout cas, c'était le dimanche 20 mars à 15h, place de la République. Ce qui termine notre agenda, et on remercie à distance les copains du Progrès Social qui sont venus nous présenter leur quotidien qui vient de naître, et nous remercions évidemment Claude à la technique, Alex, Boris, Marie et Gaël qui étaient présents, et on se quitte sur Aligo Élément, Fajo la Fête.